Depuis Pierre Desproges, on sait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, comme il le déclarait sur cette même antenne il y a quelques décennies dans son réquisitoire au tribunal des flagrants délires qui jugeait alors Jean-Marie Le Pen. Mais peut-on tout faire lire à tout le monde? C'est la question que se posent intellectuels et politiques, mais pas toujours les éditeurs, depuis les projets avortés de réédition par Fayard du Mein Kampf d'Adolf Hitler et par Gallimard de trois pamphlets antisémites de Céline. Des ouvrages qui ont sans doute un intérêt historique, scientifique et qui devaient d'ailleurs faire l'objet d'éditions critiques. À l'instar de ce que l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich a fait pour la réédition en 2016 de Mein Kampf en Allemagne, où l'ouvrage, de 2000 pages quand même, a connu un large succès, ou de la publication au Québec par les éditions 8 des écrits céliniens, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps, annotés par Régis Tetamanzi, un spécialiste de l'écrivain. À la condition que ceux qui vont les lire le fassent pour de bonnes raisons. Et ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Sauf que ces publications sont déjà en libre circulation, toujours sur le papier, dans de vieilles éditions ou éditées à l'étranger, et sur Internet, et là, sans aucune limite. Toutefois, une nouvelle sortie de ces textes maudits par une grande maison d'édition ne leur accorderait-elle pas un tout autre statut et leur donnerait-elle un coup de projecteur pas forcément utile? Alors peut-on tout publier, même pour des raisons historiques? C'est ce dont nous allons débattre jusqu'à 13h.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour cela, nous recevons aujourd'hui en studio Jean-Luc Barré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont, où vous avez publié en 2016 le dossier Rebatté, dossier qui comprenait notamment l'ouvrage Les Décombres, le livre donc de Lucien Rebatté, qui fut un best-seller en 1942. Et vous sortez également, depuis hier, vous avez sorti en tant qu'auteur chez Grasset un roman qui s'appelle Pervers. On en dira peut-être quelques mots. André Loez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. Nous avons également en duplex depuis Grenoble Tal Brutmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur notamment en 2015 du livre Auschwitz aux éditions de La Découverte. Et puis René Lévy, philosophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut d'études lévinassiennes. On espérait vous avoir en studio, mais on vous a au moins en ligne. Une petite question personnelle à chacun pour commencer. Avez-vous lu Mein Kampf ou avez-vous lu aussi des écrits antisémites comme ceux de Céline ou d'autres livres qu'on pourrait qualifier de livres maudits, Jean-Luc Barré?
Non, j'ai pas lu Mein Kampf, j'ai pas lu Céline, mais je ne m'interdirai pas de le faire par principe.
Oui. Olivier Loez.
André Loez, pardon. Je les ai lus en partie, mais votre question est intéressante parce que elle sous-entend que finalement c'est des textes auxquels il est nécessaire de se confronter pour faire l'histoire de ces périodes. Or, je pense qu'on peut tout à fait très bien connaître le nazisme sans avoir nécessairement lu Mein Kampf dans son intégralité.
Même question pour vous, Tal Brutmann.
Et une réponse sensiblement identique à celle d'André, tout simplement. Enfin, du fait de mes recherches, j'ai été amené à les lire, mais ce sont des ouvrages qui tombent très largement des mains, qu'il s'agisse des pamphlets de Céline ou de Mein Kampf. Ce sont pas des ouvrages qu'on lit de bout en bout. Donc, je les ai lus, mais en piochant dedans, selon mes besoins.
René Lévy, de votre côté.
J'ai lu la première édition de Mein Kampf, c'est-à-dire Ma Doctrine, chez Fayard en 1937. Et non seulement je l'ai lu, mais j'ai aussi consacré un séminaire à Hitler.
Donc, et sur les écrits de Louis-Ferdinand Céline?
Je n'aime pas Céline. J'ai essayé de le lire, mais...
Même sur les ouvrages autorisés?
Oui, je parle des ouvrages autorisés. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need a little time out. I need a little time out from me.
C'était Need a Little Time par Courtney Barnett, l'artiste australienne qui sera au Casino de Paris le 8 novembre prochain. La programmation musicale est assurée par Elsa Béranger. L'émission est réalisée par Frédéric Milano, assisté de Gilles Gaillard et Pierre Lemierre. Elle a été préparée par Fanny Cohen-Moreau et Gaëtan Lévy. Je profite de ce moment pour les remercier chaleureusement, ainsi que Stéphane Ronxin, Nathan Gallo, Martin Broyer et Aurore Mansip, toute l'équipe qui nous a permis de vous proposer ces débats durant ces quelques semaines.
Le débat de midi, Didier Siamour.
Et le débat d'aujourd'hui est consacré à l'édition avec une question. Peut-on tout publier, même pour des raisons historiques?
Et Zola, il est verboten aussi?
Non, Zola aussi verboten.
Brecht?
Verboten.
Hemingway?
Verboten.
Eux?
Verboten.
Hitler?
Verboten. Nein, das ist mein Kampf. Das ist mein...
C'est l'ouvrage le plus sulfureux du XXe siècle. Brûlot antisémite, rédigé par Adolf Hitler avant son accession au pouvoir, livre-programme, annonciateur de l'idéologie nazie. Interdit en Allemagne 70 ans durant, il a fait sa réapparition dans les rayons des libraires l'année dernière. Et depuis, les ventes s'envolent, 85 000 exemplaires ont déjà été écoulés. Un succès d'édition surprenant qui divise les Allemands.
Chacun doit se faire sa propre idée d'un livre. C'est le but d'un livre.
C'est quoi ton livre?
C'est un pote qui me l'a prêté. Ça s'appelle Mein Kampf.
Ah, tu lis ça? Et alors?
Oui, alors c'est l'histoire d'un prisonnier politique en Allemagne qui expose des idées un peu radicales.
Tu m'étonnes.
Tu connais?
Bah, regarde le nom de l'auteur.
Hitler. C'est qui?
Tu déconnes?
C'est un texte criminel. Ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on me dit, oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelles critiques voulez-vous qui soient données supérieures aux faits eux-mêmes?
Il suffit d'appuyer sur un clic sur Internet, sur votre ordinateur, et vous tombez sur le texte. Et là, vous n'avez aucune garantie sur la nature exacte du texte, le rapport avec la réalité du texte originel, sur la qualité de la traduction. Vous n'avez aucune note explicative. C'est pour ça que là, la main de l'historien, l'historienne, est absolument décisive.
La morale de l'info, c'est que redouter la publication de Mein Kampf, c'est tout simplement prendre les gens pour des imbéciles.
Jean-Luc Barré, vous êtes éditeur. Vous avez édité notamment, je le disais tout à l'heure, Lucien Rebatté en 2015. Que vous dites-vous quand vous avez la possibilité d'éditer ce type d'ouvrage, ou si vous aviez la possibilité, par exemple, d'éditer Céline avec ses pamphlets antisémites, que c'est un joli coup éditorial, que c'est une contribution à l'histoire?
Bon, d'abord, premièrement, la collection bouquins édite énormément de textes. Nous avons dans la collection bouquins Charles de Gaulle, Che Guevara, récemment Jacques Julliard, enfin je cite comme si peu au hasard, bientôt Elisabeth Badinter, Edgar Morin. Vous voyez, donc on ne va pas résumer notre entreprise éditoriale à spécialement ce cas-là. Moi d'abord, premièrement, c'est une question, reconnaissons-le, très récente, de savoir s'il faut tout publier. Je me demande pourquoi aujourd'hui cette question apparaît. Elle ne concerne pas d'ailleurs que l'histoire, elle va concerner un jour les mœurs aussi. Je pense qu'un jour peut-être rééditer Sade posera des problèmes. En termes de mœurs, c'est pas très reluisant, Sade. Donc, c'est un débat récent. Pourquoi se pose-t-il avec autant d'acuité? De quoi a-t-on peur réellement? Et en réalité, est-ce qu'on fait confiance ou non au public? Moi, en tant qu'éditeur, j'ai le sentiment de m'adresser à un public intelligent. Et en tout cas, notre devoir, c'est de le rendre peut-être encore plus intelligent en lui permettant d'accéder à la culture et à la connaissance. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un débat de fond sur ces questions-là. Quand la question s'est posée pour Rebatté, je vais vous dire comment c'est né l'idée. Très simplement, d'abord, il y a eu un débat, en effet, au sein du comité bouquin, nous en avons beaucoup parlé. J'ai pris cette décision à la lumière d'un document qui m'avait été proposé par l'héritier, enfin l'exécuteur testamentaire de Rebatté, qui s'appelle Nicolas Destiendorf. C'est le hasard des choses, c'est pas du tout un membre de la famille, mais c'est lui qui était légataire universel. Et puis, il m'a montré un document qui était le journal de Clairvaux, c'est-à-dire la suite des décombres. Est un document important qui permet de montrer un petit peu ce qu'a été la psychologie de tous ces gens qui avaient collaboré. Et ce document faisait un tout, et j'ai estimé que ça avait un intérêt. Alors, à partir de là, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai surtout proposé à des historiens, et proposé notamment à Pascal Horry, qui est quand même pas suspect de fascisme, de ce projet. Et d'ailleurs, il a été tout à fait enthousiasmé par l'idée, et donc il y a eu... Ce livre est sorti, il n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun débat réellement, il n'y a pas eu de critique, parce que c'était assez... Il y avait dans ce dossier les pièces du procès, Il y avait tous les éléments qui permettaient de juger de ce qu'avait fait, de ce qu'avait écrit Rebatté, mais enfin, en même temps, la question d'ailleurs, vous posez la question de savoir s'il faut tout publier. Moi, je vous pose la question de savoir s'il faut tout rééditer, parce qu'on confond en ce moment publier et rééditer. Moi, je ne pense pas. En tant qu'éditeur, j'aurais publié les décombres. Certainement pas. Mais il se trouve que ça existe. Et surtout que c'est un document historique. Et je trouve qu'en plus, il y avait un inédit qui d'ailleurs donc, n'avait rien à voir avec les décombres. Hein. C'était un texte beaucoup plus calme, si je puis dire.
Pour vous, l'intérêt, il est d'abord dans l'intérêt historique. C'est la contribution qu'il
mais peut mener. Mais on ne peut pas nier l'existence de ces textes. Et de toute façon, ils existent. Et je pense qu'il faut absolument les rendre plus lisibles, plus compréhensibles. Le cas de Mein Kampf est encore un autre cas. Mais le cas de Rebatté, d'abord, c'est un écrivain, Rebatté. C'est un écrivain qui publiait chez Gallimard. François Mitterrand disait, il y a ceux qui ont lu Rebatté et les autres. Bon, donc ça existe. Mais pour autant, ce qu'il faut effectivement, c'est que ces textes soient accompagnés d'un appareil critique tel que le lecteur puisse se faire une opinion réelle. Et puis alors, je tiens à apporter une précision. Ne croyez pas à l'idée du coût éditorial. Vous seriez surpris de voir que les ventes, notamment chez nous, de beaucoup de textes sont largement supérieures à ceux de Rebatté. Donc en réalité, on est autour de 10 000 exemplaires vendus à l'heure actuelle. On est quand même très loin des chiffres qui se font à best-seller. Ça n'était pas en soi un coût éditorial, c'était simplement, éditorialement, il y avait une justification par l'existence d'un inédit important.
André Loewes, quand vous entendez que c'est une contribution historique, cette publication, alors là on parlait de Lucien Rebatté, mais ça pourrait être le cas pour Céline, et pourquoi pas pour Mein Kampf, comment vous réagissez?
D'abord, je pense qu'il faut bien distinguer les différents textes parce que les situations ne sont pas du tout les mêmes. La question doit-on tout publier, c'est une question qui est très abstraite finalement. Alors, il faut la rapporter à des cas concrets et ces cas concrets sont relativement différents. Le cas de Céline, moi je me suis opposé avec d'autres à la réédition chez Gallimard des textes de Céline, pose un problème qui n'est pas le même que celui de Rebatté parce que ce n'est pas simplement une évocation littéraire avec des traces d'antisémitisme, ce sont des appels au meurtre antisémite. Et là, il faut partir de la question un peu abstraite, doit-on publier, qui pourrait faire bon, un beau sujet de bac philo, pour revenir au contexte concret dans lequel on est. On est dans une France où en 2018, il y a des meurtres antisémites, il n'y a pas très longtemps celui de Mireille Knoll, qui suscite évidemment l'écœurement, sans ajouter évidemment les actes et les attentats que chacun connaît des années précédentes. Et dans ce contexte, voir un grand éditeur, l'un des plus grands comme Gallimard, annoncer la réédition de textes qui ne sont pas autre chose que des appels au meurtre, ça suscite pour moi l'écœurement. L'écœurement et je trouve une forme d'irresponsabilité éditoriale. Alors là, on revient à cette question, doit-on tout publier? Est-ce que parce que c'est disponible sur Internet, en deux clics comme on dit généralement, eh bien un éditeur doit mettre à son catalogue ou remettre à son catalogue des écrits? Moi je pense l'inverse. Je pense que justement parce que le monde moderne est de plus en plus poreux quant à la circulation de l'information, eh bien les éditeurs ont une responsabilité supplémentaire. Alors ça peut être avec un appareil critique, on pourra en reparler aussi de son efficacité. Ça peut être aussi parfois en décidant de ne pas inscrire à leur catalogue des œuvres. Il me semble que pour Céline, ça aurait été le meilleur choix.
Alors Tal Brutman, est-ce que pour vous justement, le fait que ce soit une édition critique, c'est pas suffisant pour pouvoir être réédité?
C'est plus compliqué que cela. Si on prend l'exemple de Rebatté chez Bouquin, on a une édition critique avec des inédits, ce qui nous amène un matériau qui est intéressant à décrypter. Si on prend la réédition de Mein Kampf, et je vais y revenir dans quelques secondes, il y a un vrai travail de fond à réaliser et à annoter. Mais comme l'a dit André Loewes, les pamphlets de Céline, c'est de la haine pure qui aurait d'ailleurs jamais dû franchir un comité de lecture et ne franchirait jamais un comité de lecture aujourd'hui. Et penser que annoter le vomi, parce que il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce que sont ces pamphlets de Céline, ça va apporter quelque chose au lecteur, c'est totalement absurde. Alors les Céliniens expliquent qu'il y a des pages magnifiques sur Saint-Pétersbourg. En gros, pour justifier 1000 pages d'appel aux meurtres, ils en extraient 15 pages. Donc là, on touche du doigt l'absurde. Mais il y a autre chose qui est important et qu'il faut souligner. Si je reprends l'exemple de la préparation de l'ouvrage de Rebatté, et c'est pas parce que Jean-Luc Barré est présent que je m'attache à ça, on a un ouvrage qui a été préparé calmement, posément, et qui n'est pas un coup éditorial. Par contre, si vous regardez, par exemple, ce que Fayard a fait avec Mein Kampf, on se rend compte que là, en revanche, il y avait l'attente d'un coup éditorial, puisque fin 2015, Fayard est pris la main dans le sac, on va dire, par Jean-Luc Mélenchon à propos de la réédition de Mein Kampf, annonce que l'argent sera reversé à la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui n'avait pas été interrogée à ce sujet, qui dit qu'elle n'en veut pas. Trois mois plus tard, Fayard explique que finalement, ça sera le mémorial de la Shoah, qui est une autre structure qui dit qu'il n'est pas au courant et qu'il ne veut pas recevoir l'argent d'Hitler. Fayard avait annoncé la sortie annotée pour 2016, maintenant c'est pour 2020. Donc on voit qu'il y a des démarches totalement différentes. Pour Céline, c'est relativement la même chose avec Gallimard. On nous annonce l'édition de quelque chose qui va s'appeler écrit polémique. Autrement dit, on n'appelle même pas ça écrit antisémite. On nous annonce que ça sera annoté, enfin la reprise des annotations canadiennes qui sont problématiques, puis après coup que ça sera des annotations faites par des gens en France. Donc à chaque fois, on a des cas différents. On a des coûts éditoriaux qui sont pas assumés, mais qui sont flagrants. Donc la question, c'est pourquoi publier et comment publier surtout, ou rééditer, comme l'a souligné Jean-Luc Barret.
Alors, ce n'est pas forcément votre point de vue, René Lévy, on va vous écouter, mais d'abord, faisons un petit récapitulatif sur Céline.
Il y a un mode d'intervention que Céline privilégie pendant la période de l'occupation, ce sont les lettres ouvertes aux journaux. Il s'agit des journaux les plus engagés dans la collaboration, Je suis partout, l'émancipation nationale et surtout Au Pilori. Au Pilori qui est le torchon collaborationniste de l'époque.
En plus des lettres adressées et des entretiens accordés à cette presse d'égout, Céline publie un nouveau pamphlet antisémite, Les Beaudras. Surtout, en 1942 et 1943, alors que les Juifs sont raflés, internés et déportés en masse, il s'implique dans la réédition de Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, en version nouvelle, avec un cahier de photographies antisémites.
Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. De Céline. C'est un scandale.
Olivier Gaze.
Dans le contexte actuel, je pense que ni les éditions Gallimard, ni la veuve de Céline, ni qui que ce soit n'a vraiment besoin d'une republication des pires pamphlets de Céline.
Alors au milieu, on entendait, Jean-Luc Barré, vous demandiez qui c'était. C'était la cinéaste et ancienne déportée Marceline Loridan-Ivens qui réagissait, qui avait été interrogée justement au moment où devaient être réédités les écrits de Céline. René Lévy, vous dites que, notamment sur Céline, il faut montrer cette part d'infamie.
Oui, je crois que en fait, tout dépend dans la question qui sert de titre à l'émission. Peut-on tout publier ? Tout dépend de ce qu'on entend par publier. Si publier, c'est faire la publicité d'eux, alors, bien évidemment, il est hors de question que l'on fasse la publicité de ces textes. Si publier veut dire, en revanche, rendre public, alors là, oui, je crois qu'il faut rendre public l'ignominie de Céline. À condition, cependant, de bien distinguer son action antisémite, dont Bagatelle pour un massacre est un versant de son œuvre d'écrivain.
Mais prenons un exemple simple. Drieux-La Rochelle, il y a quelque temps, un livre était sorti chez lui à la collection La Pléiade, chez Gallimard, où il y avait presque toutes ses œuvres, dont certains écrits antisémites. Est-ce que sur Céline, on devrait mettre une intégrale avec une partie de ses œuvres, Jean-Luc Barré?
Enfin, moi, écoutez, je vais vous dire, je ne comprends pas ce débat, parce qu'en réalité, nous avons quand même affaire à un grand écrivain qui s'appelle Céline. On l'aime ou on ne l'aime pas. Il a fait une œuvre. Cette œuvre, évidemment, est haïssable par certains, notamment les trois titres que vous citez. Mais encore une fois, ils existent. Vous savez, un écrivain, un grand écrivain, ça peut être quelqu'un de parfaitement monstrueux. Enfin, j'écris un roman qui s'appelle Pervers, qui raconte l'histoire d'un pervers qui construit son œuvre précisément dans ce qu'il y a de pire. Non, en l'occurrence, pas d'antisémitisme, mais sur d'autres plans. Donc c'est complexe, un écrivain. Aujourd'hui, on est en train de réduire beaucoup de choses. Évidemment, on peut se poser la question
de savoir si... Vous trouvez que c'est réduire de dire que Céline, c'est pas que Voyage au bout de la nuit, qu'il y a aussi une part de...
Non, mais enfin, Céline, c'est un génie littéraire. Bon, oui. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un génie littéraire. C'est aussi, on peut dire, pour employer un mot que j'aime pas trop, c'est un salaud par certains côtés, parce qu'effectivement, les textes dont nous parlons sont ignobles. Mais c'est un tout. C'est un tout. Alors on peut réduire autant qu'on veut. Vous savez, dans quelques années, Céline sera dans le domaine public. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera, là.
2035, je crois.
On va aussi interdire le domaine public. Ça n'a pas de sens. C'est une espèce de nouvelle morale qu'on essaie d'installer. Et encore une fois, je condamne les textes de Céline. Je ne suis pas, je les rééditerai moi-même pas dans bouquin, évidemment pas. Mais enfin, c'est un débat très réducteur qui a une espèce de moralisme qui s'installe sur quantité de sujets. Encore une fois, ce débat n'aurait pas lieu il y a 10 ans. Il n'aurait pas lieu il y a 20 ans. Il a lieu aujourd'hui et pour des raisons que j'arrive pas.
On va y revenir dans quelques secondes. André Loez, vous vouliez réagir.
Moi, je regrette un petit peu la présentation caricaturale qui consiste à dire qu'on va interdire des choses. Il n'est pas question d'interdire. Ne pas rééditer, ce n'est pas interdire. Et puis, qui consiste aussi à dire que le génie, la littérature permettent tout. Je pense que les éditeurs, encore une fois, et les écrivains ont des responsabilités, pas seulement en tant qu'artistes, mais aussi dans la société dans laquelle ils évoluent. Et vous avez dit très justement, ces textes existent. Mais oui, ils existent. Ils existent, ils sont parfaitement consultables d'ailleurs. Les chercheurs qui les connaissent travaillent dessus. Il y a un livre de Pierre-André Taguieff et Annick Durafour de plus de 1000 pages qui est paru sur l'antisémitisme de Céline. Tout ça est parfaitement documenté. Donc, ils existent déjà. Et donc, le projet de réédition, ça revient à ce que disait René Lévy tout à l'heure, ça revient à donner une publicité supplémentaire à des textes qui, finalement, sont déjà connus, consultables. Les chercheurs travaillent dessus. Donc, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à les rééditer. Et je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur nos lecteurs sont intelligents. C'est une position de principe qu'on entend très souvent. Évidemment, on ne peut, en théorie, qu'être d'accord. Je pense que là aussi, il faut adopter une posture un peu plus réaliste et constater que dans le lectorat, eh bien, il y a toutes sortes d'individus possibles. Il y a aussi des lecteurs antisémites. Il y a aussi, parmi les 80 000 ou 100 000 lecteurs de Mein Kampf en Allemagne, sans doute une partie qui sont des nostalgiques du Troisième Reich et qui sont ravis de pouvoir acheter le volume, enfin. Donc il y a des lecteurs aussi qui sont tout simplement crédules, qui peuvent se tromper. Moi j'ai des étudiants, ça fait près de 20 ans que j'enseigne, et très régulièrement, pourtant ce sont des bons étudiants, intelligents, qu'on guide, ils ont des notes de bas de page sous les yeux. Combien de fois ils font des contresens sur des textes? Donc il faut arrêter de croire que l'intelligence du lecteur, guidée par la magie des notes de bas de page des historiens, va automatiquement produire de l'esprit critique. C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde réel. Il y a des lectures qui évidemment sont des lectures critiques, il y a aussi des lectures qui sont des lectures néfastes, nocives, complotistes, haineuses. Et ça, on ne peut pas l'éviter, a fortiori quand il s'agit de textes dont c'est la nature même.
Mais Tal Brutmann, je vais vous poser la question, vous aussi vous êtes historien, à partir du moment où ces textes sont disponibles déjà notamment sur Internet, est-ce que le fait qu'ils soient édités, accompagnés, mis dans le contexte, c'est justement, ça ne protège pas une partie des dérapages possibles ?
Absolument pas. D'abord, on trouve tout sur Internet. Vous pouvez trouver la revue de l'État islamique sur Internet. Est-ce que c'est pour autant quelque chose qui va intéresser les éditeurs? Donc, c'est pas la présence sur Internet qui justifie le fait qu'on publie sur papier. Si on en revient, c'était l'exemple qui était tout à l'heure dans les sons que vous avez passés. Mein Kampf est disponible en 2 clics. Donc, est-ce qu'on tombe sur le bon texte ou pas, ou etc. Sauf que quand Fayard veut publier Mein Kampf, jamais il ne s'intéresse à cette question de la diffusion auprès du public. C'est d'abord vendre des livres, et c'est le rôle d'un éditeur après tout. On est 4 autour de votre table, enfin autour du sujet, on est 4 auteurs et on escompte tout ce que notre éditeur vend, et c'est le boulot d'un éditeur là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais quand Fayard annonce qu'il va faire Mein Kampf, il ne s'agit absolument pas de supplanter ce qui est disponible en ligne. Donc si Fayard, et c'est pas son rôle, c'est le rôle des presses universitaires ou d'éditeurs spécialisés, avait dit nous publions Mein Kampf et nous mettrons le texte original à disposition de toute personne sur Internet, là il n'y a pas grand chose à dire. Si vous regardez, il y a 25 ans, Pierre-André Taguieff, qui a été cité par André Loez, avait fait une édition critique des protocoles des sages de Sion qui avait été publié par un éditeur spécialisé sans aucun problème. Ça revient à la question de savoir qui publie et pourquoi. Et c'est là le nœud du problème. C'est pas faut-il tout publier, mais comment publie-t-on et que publie-t-on? La présence sur Internet est absolument pas une justification.
Non, enfin, c'est pas une justification, à ceci près quand même, que la même semaine où il y avait, on était dans le pic de la polémique sur Céline, ce week-end-là, dans les 20 premières ventes d'Amazon, Amazon, il y a des millions de livres qui se vendent, il y avait les pamphlets de Céline. C'est-à-dire que, il faut bien se rendre compte aujourd'hui que plus un texte sera interdit, plus il va être mythifié et plus, d'une certaine manière, il va attirer la curiosité. Or, moi, je pense que en publiant certains textes qui sont des textes sulfureux, des textes condamnables, mais qui existent, on les démythifie. Je vais presque dire qu'on les tue. Alors, on va me dire, il y a un argument que j'ai entendu qui me dit, si vous publiez un texte comme Robaté ou d'autres, ça va alimenter l'antisémitisme. Enfin, soyons sérieux. Est-ce que vraiment les criminels qui ont fait ce qu'ils ont fait récemment, et vous avez cité ces cas au détriment de de personnes qui ont été assassinées à Paris, est-ce que ces gens-là avaient besoin de Mein Kampf pour le faire? On sait très bien que c'est pas ça qui se passe. Donc ça n'alimente pas.
C'est plus compliqué que ça.
C'est un faux débat. Nous sommes sur une réalité éditoriale. Et puis je vais vous dire une chose. Ne limitons pas non plus le travail des éditeurs. Alors j'entends dire les chercheurs, etc. Mais bon, parfait, mais on ne va pas faire des textes uniquement pour vous, les chercheurs. On fait aussi des textes pour le public. Et pour vous, bien sûr, qui est très utile dans ce, pour étudier ces textes, pour les faire connaître.
Il faut savoir du coup si c'est pour l'histoire ou si c'est pour le grand public et vendre pour le grand public.
L'histoire, c'est la même chose.
Là, on parle des maisons d'édition.
Le grand public n'est pas concerné.
Messieurs, on va en débattre dans quelques instants. La question aussi, c'est pouvoir éditer ou pas. C'est souvent, on l'a dit, une question de contexte avec un risque de censure, comme l'a connu la chanson Le Gorille, interdite d'antenne en 1953 par le comité d'écoute de la radiodiffusion française.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille! Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare au gorille. Patron de la ménagerie, criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille! Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille! Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille! Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille! Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille! Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille!
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et retour à notre débat consacré à la réédition de livres maudits en se demandant si les motifs historiques le justifient. Question abordée avec Jean-Luc Barré, donc directeur de la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont, André Loez, historien, René Lévy, philosophe, et Tal Brutmann, historien également. René Lévy, on vous a pas beaucoup entendu, je voulais vous entendre savoir, il y a un mot qui est beaucoup revenu dans la première partie du débat, c'est le mot de contexte. Est-ce qu'il y a des contextes qui sont favorables ou des contextes qui sont défavorables à ce type de réédition?
Très précisément, c'est la question. Dans Eichmann, à Jérusalem, Arendt a parlé de la contagion du mal. Elle a très justement vu que le mal était contagieux. qu'un mal soit contagieux, disons par exemple l'antisémitisme ou le racisme, ne signifie pas qu'il y a épidémie. Cependant, il peut y avoir des situations d'épidémie. La question se pose aujourd'hui de savoir si nous vivons une situation d'épidémie antisémite ou d'épidémie de racisme. Si c'était le cas, alors il faudrait effectivement reconsidérer la question, parce que là, nous abordons le domaine du politique et non plus seulement celui de l'édition.
Alors, moi, je voudrais vous faire réécouter quelque chose, justement, écouter sur le contexte, en se posant la question, est-ce que le contexte rend ces écrits moins tolérables? Et est-ce qu'il y a souvent, on entend dire, ah oui, avant, on pouvait dire un certain nombre de choses, je sais pas. En tout cas, nous avons ressorti un extrait de Radioscopie, émission culte, hein, à France Inter, celle du 10 décembre 1969, où Jacques Chancel recevait Lucien Rebatté, lequel s'autorisait, sur cette antenne, à dire ceci.
Lucien Rebatté, vous avez crié mort aux Juifs. Il y en a 6 millions qui sont morts dans les camps de concentration.
Oui, ça je ne le savais pas à cette époque-là. Mais ce qui m'avait...
Vous y pensez parfois?
J'y pense parfois. Si j'avais à republier des Décombres, si quelqu'un en avait le courage, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, il est certain que c'est sur ce point-là que je m'expliquerais le plus. Mais il faut voir aussi ce que les Juifs nous ont fait avant la guerre. Moi, je n'étais pas antisémite, encore une fois, au départ, mais quand nous nous sommes trouvés devant une conjuration juive universelle pour la guerre au plus vite, et une guerre dont la France faisait les frais la première, là, nous n'avons plus marché.
Mais comment?
Et c'est eux qui nous ont insultés les premiers, vous comprenez? C'est eux qui nous ont traités les premiers de nazis.
André Loez, quand on entend ce genre de propos sur une antenne radio nationale, aujourd'hui, on se dit qu'on ne pourrait pas l'entendre non plus.
Oui, on l'espère en tout cas, et on se dit, c'est ma position, que lorsqu'on est face à de telles opinions, effectivement, il vaut mieux éviter de leur tendre un micro, leur donner une aura considérable chez de grands éditeurs. Je voudrais revenir sur des choses qui m'ont un peu choqué dans le débat qu'on a eu d'abord. Je voudrais qu'on arrête les euphémismes un peu polis pour les textes de Céline. Vous avez parlé, Jean-Luc Barrière décrit sulfureux, mais c'est pas sulfureux la parole de l'appel au meurtre. Hein, là, le sulfureux, c'est ça sent le soufre, ça attire, c'est le frisson de l'interdit. Non, on est là dans un autre domaine. Et une autre chose que je trouve choquante, c'est l'idée selon laquelle finalement l'antisémitisme d'aujourd'hui ce serait celui des musulmans. C'est ce que d'ailleurs Antoine Gallimard avait expliqué hein, au Monde en janvier dernier. Il avait dit aujourd'hui l'antisémitisme n'est plus du côté des chrétiens mais des musulmans et ils ne vont pas lire les textes de Céline. Je pense qu'il y a là quelque chose de très hypocrite dans notre société. On est évidemment, on voit des gens monter au créneau très rapidement au premier signe d'antisémitisme et il y en a qui vient du monde arabo-musulman ou qui vient des banlieues. Et puis inversement, parce que ce serait de grands auteurs et parce que ce serait de belles maisons d'édition de Saint-Germain-des-Prés, eh bien là, l'antisémitisme serait parfaitement tolérable, publiable, y compris dans ses versions les plus extrêmes. Je pense qu'il y a là un deux poids, deux mesures, si vous voulez, qui me choque, encore une fois, en tant que citoyen, et pas seulement comme historien.
Il y a un fait très précis qui m'a, évidemment, au moment où je l'ai vu, je l'ai constaté, m'a beaucoup éclairé. Je crois que, je vais peut-être vous choquer, mais il me semble que publier certains de ces textes peut faire office d'antidote, d'une certaine manière. Et j'en veux un exemple précis. Il se trouve qu'il y a une librairie qui est celle de la fondation du Mémorial de la Shoah, tout près de l'île Saint-Louis. Et allez regarder ce qui est en vitrine. Il y a bien sûr les textes sur la déportation, bien sûr tous les textes qui sont des textes de référence. Mais par exemple, si je prends le cas de l'édition de Rebatté, elle a été en vitrine pendant 3 mois. C'est pas par hasard. C'était pas pour le plaisir de mettre en vitrine ce texte-là. D'une certaine manière de dire, il faut lire ce texte-là. Il faut savoir, ou ne pas le lire d'ailleurs, vous n'êtes absolument pas obligé de lire ça, mais si vous avez envie de savoir ce qu'a été l'antisémitisme d'une certaine époque, et ce qu'il pourrait de redevenir en effet, autant le connaître et ne pas l'ignorer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des biographies de chefs nazis, etc. Alors, je ne pense pas qu'il le fasse par hasard. Je pense qu'il y a une démarche très intelligente qui consiste à dire, à désigner le mal d'une certaine manière et à ne pas l'occulter. Voilà.
Je voudrais interroger dessus Tal Brutman. Est-ce qu'il faut connaître le mal, le mettre en avant pour mieux le combattre?
Je suis assez sceptique là-dessus parce que on parle d'ouvrages qui ont été publiés. Il faut pas l'oublier. À un moment où l'antisémitisme était très en cours, et les éditeurs participent de cette chaîne-là. On a les intellectuels antisémites, on a les éditeurs qui partagent leur opinion ou pas, mais qui en font leur miel, et on a les lecteurs. Et penser que les intellectuels ne jouent aucune influence sur les militants, penser que d'un côté, il y a le magnifique Céline avec sa plume, et puis de l'autre côté, il y a le militant crapuleux du Parti Populaire Français, ou plus tard de la milice française pendant l'occupation, et qu'il n'y a pas d'interaction entre eux, est totalement absurde. La plume est tout aussi responsable que le marteau. Donc penser que, d'une part, on aurait les œuvres, qu'elles seraient violentes, que c'est regrettable, mais que ça n'a pas d'influence, c'est totalement absurde. Dans ce cas-là, il ne sert à rien de publier des ouvrages, puisque c'est penser qu'aucun écrit n'a une portée. Donc non, ces ouvrages ont une portée. On est dans une période où l'antisémitisme, même le racisme, se reporte à merveille. L'extrait que vous venez de passer de Robatté, il nous montre une chose, c'est que dans les années 60, on pouvait encore tenir ce genre de propos sur les ondes d'une radio publique. Je pense que vous pourriez trouver les mêmes extraits concernant la question des femmes, ou concernant la question de l'homosexualité, ou des Noirs, ou des Arabes, etc., etc. Aujourd'hui, ces propos ne sont plus tolérables sur les antennes ou à la télé. La société évolue, il y a le racisme, l'antisémitisme, les autres formes de haine sont combattues aujourd'hui, et ça a participé d'une époque où c'était toléré.
Mais de là, vous êtes d'accord, en fait, vous rejoignez en fait le propos tout à l'heure de Jean-Luc Barré, qui disait il y a quelques années...
En partie.
Ça veut dire que mais c'est le contexte temps, qui bouge aujourd'hui, qui change.
Il y a le contexte, mais il y a aussi autre chose, c'est que les éditeurs disent on peut rééditer parce que ça a déjà été publié, donc ils se lavent les mains de leur propre responsabilité en disant ça a été publié précédemment, on peut faire la liste, elle est assez effarante. La France juive de Drummond, c'est Flammarion, les protocoles des sages de Sion, c'est Grasset, Céline, c'est De Noël, Mein Kampf avant la guerre, c'est Fayard, les frères Tarot, qui étaient des antisémites spécialisés en France, c'était Plomb, etc., etc. Tous les grands éditeurs ont abondamment publié de l'antisémitisme ou du racisme avant la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme a été disqualifié à cause de la Shoah, et donc pendant plusieurs décennies, ça s'est passé autrement d'un point de vue éditorial. Et aujourd'hui, on voit réapparaître une vague de réédition qui est beaucoup plus large que ce qu'on évoque. Par exemple, il y a quelques mois, Fayard, bon, ça tombe encore sur Fayard, mais le journal d'Albert Speer, ancien ministre d'Hitler, qui était détenu à Schmando, a été publié sans aucune annotation et avec une introduction qui était totalement expédiée. C'est-à-dire qu'on ne prend même plus les précautions d'usage. Et c'est là où c'est là où naît le débat, en fait. C'est que on a une vague éditoriale qui totalement déconnecté du contexte où les violences antisémites sont revenues sur le devant de la scène, y compris d'un point de vue meurtrier. Et d'autre part, on a des éditeurs qui publient des ouvrages, certains avec des précautions, et d'autres sans aucune précaution. Et donc là, quelle est leur responsabilité? Eux qui ont déjà une responsabilité dès la fin du 19e siècle.
On va laisser répondre Jean-Luc Barré.
Non mais attendez, dépassons quand même le débat là uniquement sur l'histoire. C'est intéressant ce que vous venez de dire sur les femmes, les homosexuels, etc. C'est-à-dire qu'on est en train d'installer l'idée qu'il y aurait toute une série de critères et d'interdits. Il y a bien sûr la question de l'antisémitisme, mais il y a donc la question de l'homophobie, il peut y avoir la question de des violences, etc. Vous savez, l'histoire littéraire, c'est pas un parcours angélique. Les grands écrivains, alors lisez Balzac, vous verrez qu'il y a de l'antisémitisme chez Balzac. Et il y a aussi une vision des femmes qui est odieuse chez Sade. Il y a, etc. Je ne dis pas que c'est justifié. L'histoire littéraire, ne soyons quand même pas naïfs. Les écrivains, d'abord, sont des hommes et des femmes libres, qui écrivent, et je crains que demain, à force de poser des interdits... Il y a un écrivain qu'on a un peu oublié maintenant, mais qui est de son vivant il y a 20 ans, il s'appelait Tony Duvert. Tony Duvert a été un romancier couronné, d'ailleurs, par le prix Médicis. Il se trouve qu'il était pédophile. Et évidemment, on ne peut qu'en condamner la pédophilie. Mais est-ce qu'on doit la condamner du point de vue littéraire? Ça, c'est quand même la question de fond. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous ne pourrions pas rééditer Tony Duvert. Donc, regardez la somme d'interdits qui sont en train de se mettre en place, au-delà même de la question d'antisémitisme, c'est sur la question des mœurs, etc. Et je pense que là, les éditeurs se doivent de faire de la résistance au nom de la liberté de la création. Ce qui ne veut pas dire, je le redis, que pour ce qui me concerne, je n'aurais jamais publié les décombres dans une version que quelqu'un m'aurait apporté les décombres, je l'aurais pas publié parce que j'aurais estimé que j'avais pas envie de le faire, que ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc faut pas tout mélanger, mais faisons attention à l'espèce de morale qui est en train de grandir et qui pèserait sur la création éditoriale et sur les éditeurs au-delà, dans tous les domaines d'ailleurs.
Une petite question, Jean-Luc Barré, à laquelle vous pouvez peut-être répondre. On a des auditeurs qui nous écrivent. Si un livre comme Mein Kampf est publié, les éditeurs et libraires ont-ils une marge? Gagnent-ils de l'argent dessus?
Bah écoutez, les libraires, d'abord, ils sont certains libraires sans doute refuseront de le vendre, mais bien sûr qu'ils en auront. Les éditeurs, c'est dans le domaine public aujourd'hui, je pense que... ça c'est un choix éditorial. Je pense que le cas de Mein Kampf est vraiment un cas très particulier.
Il est dans le domaine public depuis 2016.
C'est un produit commercial, voilà, hélas. Ouais. Donc, à ce titre-là, bien sûr.
Mais, ça fait partie des choses qui ont choqué au moment où Fayard a annoncé le projet de la réédition de Mein Kampf, et Tal Brugman le rappelait tout à l'heure. Je crois que... enfin, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je pense que Fayard est quand même embarrassé par la question des droits d'auteur. C'est-à-dire, que faire de l'argent d'Hitler? Que faire de l'argent du meurtre? C'est pas simple, de mon point de vue.
Alors, une autre question, c'est, je vous signale que les rééditions des textes envisagés s'avèrent contrevenant à la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. C'est un risque pour l'éditeur, du coup?
Bah écoutez, oui, enfin, vous savez, enfin, je veux dire, j'ai pas. Il se trouve quand Rebatté a été réédité, encore une fois, comme beaucoup d'autres textes dans le bouquin, la question n'a pas été posée de cette manière-là, donc je n'ai pas le sentiment. Bah, vous savez, regardez ce qui s'est passé au moment de la réédition. Quand le pouvoir politique en plus s'en mêle de ça, ça devient très dangereux. Vous avez eu, encore une fois, moi je suis préoccupé par la création, simplement. Et quand il y a eu l'affaire Céline, vous avez eu dans le même discours du président de la République. Président de la République disant faut pas rééditer Céline. Quelques mots plus tard, mais il ne faut pas occulter la mémoire de Charles Maurras. C'est-à-dire que, autrement dit, nous avons un pouvoir politique qui nous dit qu'il faut interdire ceci et qu'il faut autoriser cela. Donc, je veux dire, c'est le même débat, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on peut arrêter d'employer le mot interdire? Parce que personne autour de ces micros et personne dans le débat public n'a parlé d'interdire quelques textes que ce soit. Je pense que c'est important de le dire parce que sinon, c'est très facile, effectivement, de se poser en opposant à la censure, en disant qu'au nom de la création, tout doit être publié. Il n'est pas question d'interdiction. Il est question, encore une fois, de responsabilité éditoriale. Il est question de place que l'on donne à des textes. Hein, les éditions de Minuit qui ont été fondées sous la Résistance, on imagine mal qu'elles publient Mein Kampf, par exemple. Voilà. Donc, il y a des catalogues, il y a des fonctionnements d'éditeurs, et il y a des éditeurs qui font des choix, et en l'occurrence, Gallimard, au moment où a été annoncée cette réédition, a fait le choix de remettre en avant des textes qui auraient très bien pu rester dans l'oubli ou rester consultables par la petite communauté de chercheurs que ces questions intéressent et qui travaillent dessus. C'est pas le choix qui a été fait. Au contraire, ça a été annoncé avec évidemment une très grande ampleur et les effets collatéraux que vous avez signalés, c'est-à-dire que tout de suite ça a fait le buzz et donc sur Internet les gens se sont précipités pour acheter ces textes sur Amazon. Bon, là, ce sont encore une fois des choix. Ce n'est pas une question d'interdiction, c'est une question de responsabilité.
Je voudrais entendre René Lévy sur cette question que j'ai posée tout à l'heure, que je ne vous ai pas posée à vous. C'est est-ce qu'il faut montrer le mal, le connaître, pour mieux le combattre?
Alors oui, il faut connaître le mal à condition que ce soit pour le dénoncer, le localiser, l'identifier. Dans le cas de Céline, par exemple, présenter Bagatelle pour un massacre comme un écrit, c'est une grossière erreur. Bagatelle pour un massacre, même dans l'esprit de Céline, était un acte antisémite, un acte d'homme, de militant antisémite. Céline a été un militant antisémite. Il faut dénoncer cet acte antisémite de Céline. Pourquoi? Parce que Céline est, à mon sens, trop célébrée, au point qu'on ne puisse pas dire, M. Barré, je pense, ne pourra pas dire que Céline est un salaud. Il ne pourra pas le dire, au fond. Céline est un salaud, autant qu'il est un grand écrivain, il faut pouvoir le dire.
Mais je l'ai dit, monsieur. Enfin...
Pourquoi il faut publier, rendre public l'ignominie de Céline.
Tout lâcher, c'est l'homme pâle, l'une des révélations de cette année, actuellement tournée sur les festivals, ce soir au Touquet, demain à Namur.
Les problèmes me prennent pour un aimant. J'ai ramené mon stress à la maison. Je viens de me battre avec mon meilleur ami. Déjà oublié la raison. Une fois de plus en retard au travail. Promis juré, c'était la dernière fois. Mon boss m'a dit pour une fois c'est la vérité. J'ai dit pourquoi, il m'a dit parce que t'es viré. Aïe. Le compte bancaire et la fierté desséchée. Heureusement qu'elle m'invite à passer chez elle. La chaleur humaine aujourd'hui c'est cher. Allongé sur son lit, tout devient léger. Elle m'a dit tu peux tout lâcher, tout lâcher, tout lâcher, tout lâcher.
je vais en mourir. J'ai sûrement besoin d'une amoureuse. Mon petit cœur demande à se nourrir. Deux heures que je suis dans le supermarché. J'ai un œil qui se ferme tout seul comme un archer. Ça va mal même après ce malheureux joindeur. Heureusement qu'elle m'invite à la rejoindre. Je lui ai dit je suis un grand fan, t'as du talent. Tellement que mon cerveau se déconnecte. Ta plus grande qualité c'est ta langue. Mon plus grand défaut c'est d'être honnête. Chérie je vais tout lâcher.
Le débat de midi sur France Inter.
Et dernière partie de ce débat consacrée à la publication d'ouvrages maudits. Je voulais poser une question à chacun d'entre vous, de nos quatre invités. Y a-t-il un auteur jugé infréquentable aujourd'hui qui pourrait être republié selon vous, ou inversement un auteur qui ne devrait pas être publié et qui l'est aujourd'hui? André Loez.
Alors, c'est pas du tout un auteur qui ne devrait pas être publié, mais je pense qu'on pourrait en envisager la publication autrement. Il y a quelques années en Belgique, une association avait demandé à ce que Tintin au Congo soit précédé d'un avertissement, soit que la publication soit encadrée. Parce qu'effectivement, quand on ouvre cette bande dessinée aujourd'hui, moi que j'ai lu comme tout le monde petit, on est effaré par le degré de racisme qui est à chaque page. Et donc, de mon point de vue, il serait pas illégitime qu'on contextualise un petit peu, qu'une préface explique, par exemple, dans quel contexte ça a été écrit.
René Lévy, de votre côté? Ah, on ne l'a plus en ligne et donc on va poser la question à Tal Brutmann. Est-ce que vous estimez qu'il y a un auteur infréquentable qui pourrait être republié ou inversement, un qui est aujourd'hui publié et qui n'est plus fréquentable?
La question est vaste et il y a énormément d'auteurs qui sont infréquentables et Jean-Luc Barré l'a rappelé tout à l'heure parce que c'était des hommes et des femmes de leur temps. Donc ça, c'est pas trop mon problème que ces gens-là soient fréquentables ou infréquentables. Après, la question est pas de refuser de publier quoi que ce soit, c'est de savoir qu'est-ce qu'on publie et pourquoi on le publie. Donc j'avais un nom en tête, mais malheureusement André Loez l'a utilisé, c'est Hergé et j'en ai pas d'autres pour le coup.
Jean-Luc Barré, de votre côté.
Alors, oui, ce que je disais tout à l'heure se justifie. On est passé de rebatté à Hergé, la liste peut continuer, on va multiplier les interdits. Écoutez, moi ce que je propose...
Personne,
c'est
encore une fois, ne parle d'interdits.
C'est un mot qui ne vous arrange pas, mais il se trouve que c'est quand même ce que vous dites d'une certaine manière. Ces
textes-là
ne doivent pas être publiés, sinon avec beaucoup de précautions. Moi, je suggère qu'on ne publie que les auteurs fréquentables. Mais je vais vous dire qu'on va beaucoup s'ennuyer. Parce que si vous regardez l'histoire littéraire, elle est peuplée d'écrivains infréquentables. Évidemment pas pour une idée, des raisons uniquement que nous avons évoquées dans cette émission. Vous savez, le rôle des écrivains... Alors là, je dépasse évidemment, pardon, la question d'antisémitisme. C'est aussi parfois de dire ce qu'il ne faut pas dire, d'aller à contre-courant, de démasquer, etc. Les écrivains, par définition, sont infréquentables. Et tous les génies littéraires, c'est leur cas.
Eh bien, merci à nos invités. Donc, Jean-Luc Barré, directeur de la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Et vous avez sorti hier, en tant qu'auteur, cette fois-ci, chez Grasset, le roman Pervers. André Loez, historien, et qu'on peut entendre, vous ne publiez pas, mais on peut vous entendre dans les podcasts Paroles d'Histoire. René Lévy, donc philosophe, directeur de l'Institut d'études lévinassiennes, et puis en duplex depuis Grenoble, c'était Tal Brutmann, historien, auteur notamment en 2015 du livre Auschwitz aux éditions de La Découverte. C'est le dernier numéro du débat de midi. Encore merci à toute l'équipe qui a travaillé tout au long de ces semaines à la préparation de l'émission. À partir de la semaine prochaine, c'est le retour de la bande originale autour de Nagui, de Carnet de campagne de Philippe Bertrand et du mythique Jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet. À bientôt.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.